Bonjour à tous, ici Chloé Mahé et bienvenue sur le podcast Le Journal du Pharmacien. Le Journal du Pharmacien, c'est le podcast qui va te permettre d'en apprendre plus sur l'univers de la pharmacie et ses possibilités infinies à travers les interviews de pharmaciens et de pharmaciennes, mais pas que, tous plus inspirants les uns que les autres. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast car c'est ce qui permet de faire découvrir notre univers et de transmettre la fierté du métier. Cette semaine, je reçois Christelle Elias, docteur en pharmacie qui s'est d'abord engagée dans la filière internat et qui a eu plusieurs expériences en agence de santé lors de ses études, notamment à l'ANSM et même à l'Organisation mondiale de la santé. Aujourd'hui, elle est assistante hospitalo-universitaire aux Hospices civils de Lyon, à l'unité d'hygiène et d'épidémiologie, et travaille notamment sur des problématiques telles que l'antibiorésistance. Dans cet épisode, elle nous raconte son parcours, ses missions en tant qu'épidémiologiste des maladies infectieuses et nous en apprend un peu plus sur la problématique de l'antibiorésistance. Alors, bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Pharmacien. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Christelle Elias, qui est docteur en pharmacie et épidémiologiste des maladies infectieuses. Ravie de te recevoir sur le podcast et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pardon.
Bonjour Chloé, merci également de m'avoir sollicité pour faire cette interview.
Super, alors du coup, je vais te laisser te présenter un petit peu et nous dire qui tu es.
Donc bonjour à tous. Donc Christelle Elias. Donc je suis docteur en pharmacie. Je suis diplômée en fait de la fac de Paris Descartes. J'ai aussi effectué un internat en pharmacie hospitalière au sein des hôpitaux de Paris. Également j'ai fait un master en santé publique de l'école CNAM Pasteur au cours de mon internat pour me spécialiser en santé publique et plutôt en épidémiologie des maladies infectieuses. J'ai eu l'occasion de faire quelques stages notamment dans les organisations internationales, à l'OMS, au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies sur la thématique de l'antibiorésistance. Et depuis 2018, je suis assistant hospitalo-universitaire aux Hospices civils de Lyon, à l'unité d'hygiène et d'épidémiologie.
Ok, super, merci pour cette petite présentation. Et du coup, pourquoi tu as choisi la pharmacie hospitalière et plus précisément de t'orienter vers tout ce qui est épidémiologie
Alors j'ai fait l'internat de pharmacie au départ pour m'ouvrir un petit peu toutes les portes. J'étais au moment où on passait le concours, j'avais 22 ans et je me voyais pas tout de suite entrer dans la vie professionnelle et je voulais encore un petit peu connaître quelles étaient quelles pouvaient être les autres voies et avoir un petit peu plus d'expérience professionnelle et acquérir en maturité et responsabilité. Donc j'ai fait cet internat pour ces raisons. Et ensuite, au cours de mon internat, à travers mes différents stages, j'ai exploré pas mal les missions du pharmacien hospitalier, mais je ne m'y retrouvais pas complètement. Et j'avais le souhait, en tout cas, de faire un master 2. Et donc, voulant en fait plutôt compléter ma formation initiale, j'ai souhaité faire un master qui était un petit peu différent, on va dire, de l'aspect pharmaceutique. Et donc, j'ai fait ce master en santé publique qui m'a ouvert pas mal d'opportunités professionnelles, et notamment en santé internationale, pour laquelle en fait j'y porte un grand intérêt. Et donc, ça m'a permis, en tout cas, de connaître un tout petit peu plus la discipline de l'épidémiologie, également aussi tout ce qui est en relation avec le risque infectieux, avec une dimension aussi un petit peu internationale. Donc, c'est ce que m'a permis de faire ce master que j'ai fait en milieu, en fait, de mon internat.
Ok. Donc, t'as fait un stage à l'OMS. Comment t'as fait pour rentrer à l'OMS pour faire un stage?
Alors j'ai fait mon stage en effet à l'OMS dans le département des médicaments essentiels sur la problématique de l'antibiorésistance, donc c'était mon stage de master. Alors j'avais des contacts personnels en fait qui m'ont permis en tout cas d'intégrer et de faire passer mon CV à plusieurs personnes au sein de l'institution. Et un pharmacien, justement, a retenu en tout cas mon CV et m'a gentiment accueilli dans son département pour faire mon stage de 6 mois à l'OMS.
Ok, ça devait être une expérience incroyable, j'imagine.
C'était très enrichissant. J'ai vraiment apprécié en tout cas de travailler là-bas, d'une premièrement pour la thématique sur laquelle on m'a fait travailler, parce que j'y travaille toujours, par les rencontres que j'ai pu faire. Il y a une diversité en tout cas de nationalités, et ça c'est très bien. En tout cas, ça permet de travailler dans un environnement en fait assez différent que l'on connaît pas forcément quand on fait que l'hôpital. Donc ça permet aussi de s'adapter à différentes visions professionnelles, tout en ayant aussi à faire des délivrables, en tout cas dans un contexte, on va dire, assez urgent de temps en temps. Donc ça, c'était très bien. Et puis on a la chance en tout cas d'avoir aussi une visibilité sur beaucoup de projets. Il y a énormément de conférences. Genève aussi est une ville très internationale, et puis même au bord du lac Léman. Donc c'était très plaisant en tout cas de passer quelques mois en Suisse et à Genève.
Ok, super. Donc du coup, tu as été à Genève. Est-ce que tu as voyagé un peu aussi un peu plus dans le cadre de tout ça?
J'ai pu profiter en fait d'une conférence à Berlin à l'occasion de mon stage. Après, les missions qu'on m'avait confiées n'avaient pas, on va dire, de vouer, je dirais, à faire des missions de terrain dans les pays d'intervention. Mais voilà, j'étais déjà très heureuse en tout cas de pouvoir collaborer et de pouvoir profiter de travailler à l'OMS. C'est pas tout le monde qui a cette opportunité et cette chance.
Clairement, clairement, ça fait rêver. Et du coup, si je comprends bien, est-ce que c'est obligatoire de passer par la santé publique pour se spécialiser en épidémio ?
Alors, l'épidémiologie est une discipline de la santé publique parmi d'autres. C'est fortement recommandé, en fait, je dirais, d'avoir des expériences, que ce soit dans le domaine de l'épidémiologie, mais que ça peut être, en fait, d'un point de vue très opérationnel avec l'épidémiologie de terrain, ou plutôt très institutionnel dans les agences sanitaires, qu'elles soient nationales, européennes ou internationales. Je parle pour mon expérience, j'ai eu l'impression aussi que même une expérience, je dirais, auprès des patients, car d'avoir une vision un petit peu plus microscopique, en fait, d'être vraiment au plus proche du terrain, c'est assez utile et c'est assez, je veux dire, demandé. Avant d'avoir une vision un peu plus macroscopique, en fait, de la santé publique, on s'intéresse vraiment à l'échelle populationnelle. Donc, je pense qu'il faut faire, en fait, faut que ce soit synergique, faut essayer d'avoir toujours un peu une vision proche du terrain pour pouvoir ensuite avoir une expertise un petit peu plus en santé publique et si on veut se spécialiser aussi un peu en épidémiologie.
Ok, et j'imagine qu'il faut être super bon en statistiques.
C'est préférable, oui, d'avoir un attrait pour les bases de données et puis pour les logiciels d'analyse statistique, tout à fait.
Ok, et t'avais pas fait un DU parce que je sais qu'il y a des gens qui font des DU pour se former.
Exactement, donc oui, au cours de mon internat, j'avais fait le DU Sésame, donc déjà ça m'avait mis un petit peu sur la voie des statistiques. Après, au cours de mon master, en effet, on a beaucoup de cours intenses, en tout cas en statistiques, en gestion des bases de données, et puis pour avoir une approche un petit peu plus approfondie aussi sur l'analyse statistique des résultats d'études, en fait.
Ok. Et en quoi consiste concrètement ton travail à l'hôpital ?
Alors, mon travail à l'hôpital, il est segmenté en plusieurs, en fait, parties, à savoir que j'ai une partie très opérationnelle qui constitue un peu ma casquette hospitalière, à savoir je m'occupe un peu de tout ce qui est prévention du risque infectieux à l'hôpital pour limiter en fait l'apparition des infections associées aux soins chez les patients hospitalisés. Ça consiste aussi en la gestion du risque infectieux, la gestion d'épidémies. Donc typiquement, avec l'actualité, on essayait de limiter les clusters nosocomiaux au sein des différents services de l'hôpital. Donc ça, c'est pour mes missions un peu hospitalières. Autrement, j'ai aussi des missions universitaires, à savoir que je dispense des enseignements à la fac, donc pour les étudiants de médecine, pour les étudiants de pharmacie, pour les étudiants de master, master 1, master 2 en santé publique, et quelques cours aussi en relation toujours avec la santé publique, l'épidémiologie et un peu le risque infectieux.
Okay.
Et enfin, j'ai une dernière mission, c'est de la recherche. Donc là, c'est plus la conduite d'études épidémiologiques, en fait, majoritairement observationnelles. dans le cadre en tout cas de mes activités, soit de routine, soit un peu plus de recherche avec des institutions internationales. On collabore aussi avec la Fondation Mérieux.
Ok, donc j'imagine que vous mettez en place des protocoles pour prévenir les risques.
Oui, tout à fait. On a des protocoles pour essayer plutôt de comprendre en fait quels sont les déterminants associés à des événements de santé, en particulier principalement les maladies infectieuses. Donc on cherche à savoir un peu quels sont les facteurs de risque ou les facteurs pronostiques, par exemple des bactéries multirésistantes, des infections virales respiratoires, le Covid par exemple. On a une grosse base de données en fait qui étudie là-dessus. Donc en effet, notre objectif aussi de construire des études à partir des patients par exemple hospitalisés.
Donc par exemple, vous allez sur le terrain, vous observez ce qui va, ce qui ne va pas, et ensuite vous mettez en place un protocole.
Oui, nos observations nous permettent d'émettre des hypothèses et à partir de ces hypothèses, on peut construire en fait un protocole d'études épidémiologiques. Une fois qu'on l'a construit, après, on va recueillir les données. Donc, on peut recueillir les données en faisant des interviews face à face avec les patients. Donc là, c'est plus, je dirais, des attachés de recherche clinique qui ont pour mission de faire faire ce recueil. On a aussi un logiciel, on va dire, un dossier médical informatisé au sein des hospices civils de Lyon où on peut recueillir énormément de données. Donc pendant la période Covid où les visites, ou en tout cas où la distanciation sociale était de rigueur, on a pu utiliser ce logiciel pour pouvoir recueillir pas mal de données et construire en fait notre base de données pour en faire des analyses statistiques.
Ok. D'accord, ok, donc ouais, ça, c'est intéressant, ça a l'air d'être, déjà il y a beaucoup de réflexion, j'ai l'impression, c'est vraiment, on observe et puis après on réfléchit, ça a l'air sympa comme métier. Moi je voulais revenir un peu sur l'antibiorésistance, j'ai une question, est-ce que c'est vrai qu'en 2050 on aura un mort toutes les 3 secondes suite à l'antibiorésistance ?
Alors, j'ai connaissance comme quoi en 2050, en tout cas, la mortalité attribuable à l'antibiorésistance dépassera la mortalité attribuable aux maladies chroniques telles que le cancer, les maladies cardiovasculaires. Mais ça, c'est uniquement si, on va dire, il n'y a aucun effort qui est fait, en fait, pour lutter contre ce fléau. Je ne savais pas qu'il y avait, en fait, un nombre, on va dire, une vitesse associée à cette, comment dire, mortalité, mais c'est certainement vrai. Ceci dit, en tout cas, ne serait-ce que dans ma routine, la prévalence en fait, ou la fréquence des patients présentant des bactéries multirésistantes est quand même assez élevée. Il y a beaucoup de transmission qui se fait et lorsqu'on arrive sur des patients qui présentent des infections à des bactéries multirésistantes, où on a vraiment très très peu d'antibiotiques efficaces, on se retrouve, les cliniciens en tout cas se retrouvent devant une impasse thérapeutique, et en effet le pronostic est très mauvais pour le patient. Donc à l'heure actuelle, il y a pas mal d'investissements qui sont menés par différentes parties prenantes pour essayer de lutter en fait contre ce phénomène. Les alternatives thérapeutiques ne sont pas non plus, on va dire, il n'y en a pas énormément à l'heure actuelle. On essaye de trouver des thérapies un peu différentes, la phagothérapie par exemple, mais ça reste vraiment des cas très très spécifiques. Donc, je dirais mieux vaut prévenir que guérir. Donc, l'un des meilleurs moyens pour l'instant reste encore une fois la prévention par les mesures d'hygiène, les précautions en fait d'hygiène pour limiter ce fléau. Mais il reste en effet croissant, que ce soit à l'échelle nationale et évidemment à l'échelle globale aussi.
Ouais, c'est assez inquiétant. Moi, j'avais vu des visuels où ils montraient des affiches en disant oui, voilà, demain, en 2050, Martine mourra d'une infection urinaire, quoi. Donc ça fait peur.
Ce serait pas faux.
Ouais. Ouais, parce qu'en plus il y en a partout, quoi, dans les poissons, tout ça. Enfin, on sait même pas, on sait plus où il y en a tellement partout que.
Alors il y en a vraiment partout. D'ailleurs, ça regroupe ça sous le terme d'une seule santé. En fait, quand on s'intéresse à l'antibiorésistance, ça touche à la fois le secteur humain, ça touche le secteur vétérinaire, agroalimentaire, le secteur environnemental. Donc comme il y a un circuit en fait et il y a des ponts entre ces différents ces différents secteurs. Mmh. C'est vraiment un phénomène qui touche vraiment tout le secteur sanitaire. Donc c'est vraiment très très problématique. Et en tout cas, c'est une thématique d'avenir sur laquelle il faut vraiment mobiliser des troupes pour pouvoir essayer d'assurer un meilleur pronostic, autant pour la population, mais aussi pour l'environnement et pour le secteur vétérinaire.
Ouais, je trouve qu'on a tendance à croire un peu qu'on est invincible. Enfin, on prend toujours les problématiques quand on n'a plus le temps, j'ai l'impression, l'homme en général, tu vois.
Ah, bah la pandémie Covid est un bon reflet. Bah oui.
Bah oui, c'est ça, exactement. Et on attend toujours le dernier moment pour que ce soit critique. Pareil, quand on demande aux gens, ils disent non, mais nous, on connaîtra jamais le dérèglement climatique extrême. Et en vrai, c'est possible
ouais,
que si.
Ouais,
hein.
Ouais. Mmh. Bah, il faut venir, il faut être vraiment très proche. Quand on est peut-être confronté, on se rend peut-être plus compte. Mais évidemment, on le souhaite à personne.
Hein. Ouais, non, l'antibiorésistance, quand même, ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant. à quoi ressemble ton équipe ? Est-ce que tu travailles que avec des pharmaciens ? Enfin, j'imagine que non, du coup.
Alors, on est une équipe qui est composée, donc, au niveau médical en tout cas, de pharmaciens et de médecins, mais je dirais c'est plus notre formation en fait de base. J'ai aussi une équipe paramédicale avec des infirmières, un cadre de santé, des biohygiénistes qui s'occupent un peu plus des missions de terrain aussi et vont énormément en fait dans les services cliniques. Voilà, après, on a donc les personnels aussi, enfin, je dirais de l'équipe médicale, ont des casquettes soit 100% hospitalières, soit des profils un peu hospitalo-universitaires comme le mien, ou des personnels voilà, titulaires, type maître de conférence ou professeur des universités aussi, praticien hospitalier.
Ok, et quel est justement le rôle et la place du pharmacien dans une équipe pluridisciplinaire comme ça ?
Alors c'est une bonne question, mais je vais avoir quelques difficultés à répondre parce qu'en réalité, je dirais je suis pas pharmacien, je suis plutôt j'ai une formation de pharmacien qui m'a permis en fait d'accéder à ce poste, mais j'exerce pas vraiment en fait la pharmacie à proprement parler. Et je suis assez éloignée, on va dire, de toutes les problématiques, je dirais pharmaceutiques et médicamenteuses. Donc on intervient un peu en tant que pharmacien, je dirais, pour tout ce qui est un petit peu désinfection des dispositifs médicaux, un peu lié à la stérilisation de certains dispositifs également, dont, par exemple les endoscopes. Mais en réalité, en fait, je dirais, j'ai pas un rôle de pharmacien, je joue plutôt un rôle médical en fait avec mes collègues, et plus en tant qu'hygiéniste pour le côté hospitalier et épidémiologiste plus pour le côté recherche en fait. Mais la pharmacie m'a permis, est un diplôme en tout cas qui m'a permis d'accéder à des connaissances qui sont indispensables pour occuper ce poste, mais qui m'ont permis, c'est plus un tremplin en fait pour mon statut et pour les missions que j'exerce actuellement.
Encore une fois, on voit à quel point la pharmacie, ça ouvre tellement de portes. On
Exactement.
Peut tout faire, quoi. J'adore. Et du coup, tu t'enseignes aussi, comme tu l'as dit, à la fac de Lyon. Est-ce que ça, c'était assez obligatoire, ça, ou c'est un choix ?
Alors, mon statut d'assistant hospital universitaire, en fait, je dirais, m'oblige. Enfin, c'est une condition sine qua non, en fait. Donc, j'ai forcément un côté universitaire pour lequel j'ai des devoirs, on va dire, d'enseignement. Après, moi, c'est quelque chose qui me plaît, en fait. J'aime bien le côté un petit peu pédagogie et de transmettre un peu le savoir qu'on a aux étudiants et puis aux futurs personnels médicaux ou même épidémiologistes. Donc, Ça faisait partie en tout cas de mes missions et de mon poste. Pas tous les postes, je dirais, équivalents à mes missions hospitalières ne requièrent en fait des exigences universitaires. Tout dépend de ce que l'on souhaite. Si on prend un statut, par exemple, d'assistant spécialiste, il y aura un versant 100% hospitalier et puis, les enseignements ne seront pas obligatoires.
Ok, mais du coup, il ressemble à quoi ton emploi du temps ? C'est toutes les semaines l'enseignement ?
Alors, ça se cale pas mal sur le calendrier universitaire, à savoir que bah, nous sommes en juillet-août, donc j'en ai pas beaucoup. Et que si on reprend en septembre, j'en ai assez régulièrement. Donc, ouais, le planning est assez chargé à partir de début septembre. Ça peut aller de 4-5 cours par semaine. Et puis, des fois, j'ai des semaines où j'en ai pas énormément. Après, on passe pas mal de temps aussi à préparer nos cours. Il faut penser aussi à les actualiser d'une année à l'autre. C'est très variable en fait. Après, on doit avoir un certain nombre d'heures de cours à faire par an, minimum. Donc voilà, je dois en avoir, je pense, 75 heures au
Ok.
total, peut-être.
Ok. Et pour ce qui est du versant recherche, ça consiste en quoi exactement?
Donc la recherche, c'est principalement en fait de conduire des études épidémiologiques ou de profiter de certaines bases de données qui existent déjà pour en tirer des hypothèses de recherche et faire des analyses statistiques. Donc on a aux Hospices civils de Lyon, on a plusieurs en fait déjà études qui sont en cours. Donc en général, on a un objectif en tête et puis on souhaite en fait étudier cet objectif. Donc en gros, on fait des analyses statistiques et puis on fait des résultats et puis on écrit des papiers. Et en plus de ça, moi je débute une thèse de science sur l'antibiorésistance dans des pays à ressources limitées. Ça se fait avec la Fondation Mérieux et ça fait partie justement de mes activités de recherche en fait à titre personnel.
Ok, on verra du coup en 2050 où on en sera, si
Ouais,
tu nous
j'espère que
auras
j'aurai
sauvés.
fini ma thèse d'ici là.
Ouais, on verra si tu nous auras sauvés. Ok, j'espère, je croise les doigts. Du coup, on arrive sur la fin de l'entretien et j'aimerais savoir, c'est quoi la plus belle, enfin, qui est la plus belle rencontre que tu aies fait pendant ta carrière jusqu'ici?
C'est une drôle de question. Mon mari, parce que je l'ai connu pendant mon internat.
Non, je parlais
J'ai
plus,
pas
par
vraiment
exemple,
le choix.
je sais pas, un collègue ou un patient qui t'a marqué, je sais pas.
Non, je dirais la personne qui m'inspire le plus, ce serait peut-être Arnaud Fontanet. Premièrement, c'est mon responsable de master et c'est un épidémiologiste en maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. Enfin, en tout cas, sans son tutorat, je dirais, sans l'existence de ce master, je n'aurais pas pu accéder en tout cas là où je suis actuellement et aux missions qu'on me confie actuellement. Donc, je dirais, voilà, le professeur Arnaud Fontanet.
Ok. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à partager aux étudiants qui voudraient suivre tes traces et se lancer dans l'épidémio?
Je dirais que toutes les opportunités sont ouvertes et il y a une belle citation de Louis Pasteur que la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Donc je pense qu'il faut essayer d'explorer toutes les possibilités et que le diplôme de pharmacien en tout cas permet de travailler dans plein de disciplines, en tout cas diverses et variées et vraiment très très intéressantes.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à nous rejoindre sur la page Instagram du podcast, Le Journal du Pharmacien, et à me dire ce que tu en as pensé. À bientôt sur Le Journal du Pharmacien.